culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Auditrice, auditeur, bonjour, tu es au Culte Espoir. Alors tu nous écoutes peut-être pendant que tu es en train de faire ton repassage, peut-être que tu nous écoutes sur la route pour aller au travail.
Attends, Brian, juste avant tu nous disais peut-être tu es en Afrique ou en Thaïlande, je sais pas quoi, maintenant on fait du repassage.
Mais ouais, grave. C'est possible.
C'est vrai.
Tu viens peut-être pour la première fois ici d'ailleurs, qui sait, où que tu sois, sois le bienvenu ici. Tu es chez toi. Aujourd'hui, autour de la table, je suis accompagnée de Mildred et de Stéphane. Bonjour les amis.
Salut Brian.
Bonjour.
Comment ça va?
Excellent. Très bien. Merci de nous avoir proposé de t'accompagner.
Ben, avec plaisir. Plaisir partagé. Alors aujourd'hui, nous recevons Nicolas Walter. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors tu as œuvré longtemps dans le monde adventiste et maintenant tu es pasteur de l'église adventiste de Genève depuis quelques années.
Tout à fait.
Merci d'être là et on va apprendre à te connaître un peu mieux puisque tu viens nous partager deux messages et cette semaine et l'autre la semaine prochaine. D'ailleurs, de quoi vas-tu nous parler dans ce premier épisode ?
Parler de Jean 17, on va dans les deux épisodes finalement. On va rentrer dans l'intimité de la prière d'un fils envers son père. Et ce n'est pas n'importe quel père et ce n'est pas n'importe quel fils.
Eh bien, merci. Que Dieu nous accompagne et nous inspire par son Saint-Esprit tout le long de ce culte. Auditrice, auditeur, bonne écoute. Alors, sans plus attendre, nous commençons notre chronique habituelle, Dieu dans ma semaine. Stéphane, la parole est à toi.
Merci, Brian. Donc, j'ai pas mal réfléchi. On a pas mal réfléchi pour ce moment-là, c'est pas ça.
Merci.
Et dans l'église que je fréquente, l'église lusophone de Neuchâtel, nous avons reçu un pasteur venant du Brésil. Il faisait une semaine de prière, le pasteur Ricardo. Et un des thèmes de samedi après-midi, c'était sur les influences qui nous rapprochent ou nous éloignent de Dieu. Une des leçons qu'on a pu sortir de ce sabbat, qu'être chrétien aujourd'hui n'est pas facile du tout.
C'est pas toujours simple.
Parce que nous sommes bombardés de tous les côtés, des influences, et la plupart, sincèrement, c'est pas dans la direction de Dieu. Hein. Au contraire. Et on est là, au milieu de tout ça, de cette bataille, qu'on veut vraiment s'accrocher à Dieu, et c'est pas facile. Tous les jours, on doit choisir entre le bien et le mal. Dieu nous laisse sa parole, et nous pouvons trouver des exemples qui peuvent nous aider à choisir entre le bien. Je dirais même, de nos jours, qu'il faut nous battre pour y arriver.
C'est vrai.
Mais Dieu est là pour nous aider à choisir. Et la conclusion qu'on a eue ce sabbat après-midi, c'est qu'il faut que nous soyons des influences vers les autres, pas l'envers.
Pas être influencé, mais plutôt des influenceurs.
Tout à fait. Exactement. Mais pas l'influenceur qu'on parle d'aujourd'hui, oui, youtubeur, tout ça, pas du tout. Mais être influenceur, vraiment la parole de Dieu. Nous devons vraiment nous battre pour influencer les personnes qui sont autour de nous. Et surtout dans un milieu qui n'est pas chrétien. Donc il faut vraiment savoir comment faire. Mais Dieu nous appelle, et Dieu nous appelle pour faire la différence. Mais il sera toujours là avec nous. Donc je prie tous les jours que moi, que je puisse vraiment être une influence envers les autres.
Amen. Merci Stéphane. Merci pour ton encouragement et pour ton influence en témoignant de ce Dieu qui nous accompagne dans ce champ de bataille. Et bien justement, auditeur, auditrice, je te propose de continuer en chanson avec le chant « La bataille » de Jonathan Patton.
Que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Oh, toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres.
Te voilà dans la chronique Promesse du jour. Et j'aimerais te partager un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre des Psaumes au chapitre 138 et le verset 7. Le psalmiste David s'exprime à propos de Dieu en disant « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. » Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu bloqué sur ce mot « marche ». Pour ma part, je marche pour aller d'un point A à un point B, pour arriver à destination, au boulot, à la maison. Et dans ce passage, j'ai l'impression que marcher, c'est aussi avoir de l'espoir, espoir d'y arriver. Alors, dans ce champ de bataille que tu peux parfois mener contre ton ennemi, qui pourrait très bien aussi être une addiction, de mauvaises pensées, de mauvaises habitudes, eh bien, je t'encourage à continuer à marcher. À garder espoir, car Dieu te sauve et il te donne la vie. Sois béni. Auditeur, auditrice, je t'invite à passer un petit moment en musique. Aujourd'hui, on parle de prière dans la bataille. Alors, qui dit bataille dit armée, un groupe de personnes qui se lèvent pour combattre. Alors, entends-moi bien, ce n'est nullement un appel à faire la guerre, mais à combattre avec Dieu et les armes spirituelles que l'on a beaucoup évoquées hein, dans nos cultes précédents, notamment le culte de chroniqueurs hein, du 2 juillet. Et combattre avec qui ? Avec Dieu, certes, et le plus important, mais aussi avec une assemblée de chrétiens qui se lèvent et va de l'avant avec lui. Alors voici une chanson de Dena Moana qui s'intitule « Une armée ».
Et voilà, on est bien dans le thème de bataille, de combat. Alors, il y a quelque temps, un jeune homme est venu prêcher dans mon église. J'ai été très impressionnée de l'entendre raconter sans gêne les différentes étapes compliquées de sa vie. Alors, je lui ai demandé de partager son témoignage avec nous pour ce culte espoir. Donc, voilà, un jeune homme qui a déjà vécu des choses très difficiles dans son enfance, entre autres le divorce de ses parents. Une bonne partie de son enfance a été motivée par la haine, les combats, les batailles. Ça, il connaît. Allez, on va écouter ensemble le témoignage d'Alexandre. Bonjour Alexandre.
Bonjour Mildred.
Je te remercie encore une fois d'avoir accepté de parler avec nous et de partager ton témoignage. Alors, je t'ai déjà annoncé auprès de nos auditeurs, mais j'aimerais quand même que tu nous racontes un tout petit peu de ton enfance, comment ça s'est passé, est-ce que tu connaissais déjà Dieu?
Alors, bah, écoute, merci pour l'invitation et concernant bien, ce que je vais partager, donc pour faire très court, j'ai grandi dans un foyer chrétien qui n'était pas adventiste, mais qui en tout cas avait la foi. Et puis, dans la religion où ils étaient, c'était assez compliqué quand même. Il y avait beaucoup de problèmes quand même. C'était assez compliqué sur le plan familial, sur à peu près tous les aspects. Donc, très vite, j'ai eu un dégoût pour la religion. Et j'avais clairement pas envie de rester dans cette religion, et pourtant je faisais quand même la différence avec Dieu, mais oui, je croyais en Dieu étant petit.
Et après, donc, tu as fait ton cheminement, tu as pu rencontrer véritablement Dieu plus tard?
Oui, beaucoup plus tard du coup, puisque effectivement étant enfant, je cherchais mais sans vraiment savoir où chercher, et puis il a fallu que j'aille jusqu'à l'adolescence pour on va dire faire des expériences assez fortes qui m'ont permis d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Oui.
Et suite à cette rencontre, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pu aller jusqu'au baptême?
Alors, ça a pris un peu de temps, mais effectivement, à un moment donné, bien, plus j'ai avancé avec Dieu, et plus bah, effectivement, j'en suis arrivé à vouloir vraiment m'engager avec Dieu et à pouvoir le servir. Oui.
Bah, souvent, on pense qu'une fois qu'on a été baptisé et qu'on connaît Dieu, la vie, ça roule, on va dire, que tout va très bien. C'était comme ça pour toi?
Ah bah, pas du tout, effectivement. Quand je suis chrétien, je venais aussi, donc forcément, je venais du monde, puisque j'ai grandi dans le monde, mais sachant que mes parents, ayant divorcé, ayant aussi quitté la religion dans laquelle ils étaient complètement rentrés dans le monde, et même dans des choses qui sont occultes, pour ma maman en tout cas. Donc j'avais beaucoup de choses qui me suivaient et qui n'étaient pas très propres et qui n'étaient en aucun cas saines dans ma vie de chrétien.
Comme quoi, par exemple, est-ce que tu pourrais nous en parler ?
Ouais, bien sûr, et du coup, il y avait forcément, quand je parle d'occultisme, ma maman avait été voir des voyantes, par exemple, donc on avait souvent des problèmes d'ordre surnaturel qui agissaient dans les lieux où on habitait, dans ma chambre, dans l'appartement, dans les maisons où on vivait. Et puis, moi, j'étais tombé dans des addictions étant adolescent, comme la masturbation, la violence, les jeux vidéo, beaucoup de choses qui sont anodines pour beaucoup de jeunes, mais qui, quand on est chrétien, on le sait très bien, au fond de soi, que c'est des choses qui sont malsaines, quoi.
Ce n'était pas vraiment compatible avec une vie chrétienne.
Non, pas du tout. C'était un esclavage, d'ailleurs, qui ronge la vie. Hein.
Ça, c'est vrai. Et comment ça s'est passé? Alors, c'était un vrai combat, c'était une bataille, c'était avec des hauts et des bas. Comment tu as fait pour aller de l'avant? Est-ce que tu t'en es sorti?
Ah, grâce à Dieu, je m'en suis sorti, effectivement.
Et, amen.
Voilà, quand on demande à Dieu l'aide, vraiment, et qu'on est sincère dans sa démarche, il a des promesses qui sont vraies. Si à partir du moment où on croit en Jésus-Christ et qu'on sait qu'il est vivant, il faut aussi croire que forcément il a les capacités de nous changer, de nous transformer, mais il faut aussi que ça vienne de nous, clairement, qu'on veuille vraiment aller jusqu'au bout de la démarche. Donc ça s'est fait, oui, au bout d'un moment, mais ça s'est fait dans beaucoup de combats et beaucoup de désillusions quant à mes propres capacités, où comme beaucoup, bah, je pensais pouvoir m'en sortir par mes propres moyens, ce qui est absolument impossible.
Il faut vraiment une force supérieure, la force divine.
Oui. Oui, c'est impossible par ses propres moyens. Quand on parle vraiment, en tout cas, d'une addiction, puisque il y a des personnes qui vont dire, bah, moi, en fait, ça, non, j'ai arrêté par moi-même, j'avais pas besoin de l'aide de Dieu ou qui que ce soit, effectivement, mais ça veut dire que c'était pas leur faiblesse. quand on parle d'une addiction, c'est vraiment quelque chose qui nous ronge et on n'est pas capable personnellement de lutter et d'en être délivré. Pour le coup, y en a forcément pour chacune des personnes qui vivent sur Terre, des addictions, en tout cas des faiblesses, des fragilités, qui font que sans l'aide de Dieu, on ne peut rien faire contre ces choses-là, sur le long terme en tout cas.
Alors Alexandre, peut-être là maintenant, nous avons des auditeurs qui t'entendent, qui nous entendent et qui peut-être traversent des moments difficiles comme ça. Est-ce que tu pourrais leur laisser un message ?
Bien sûr, oui, avec plaisir, puisque aujourd'hui, étant donné que, comme je disais, j'ai été grâce à Dieu libéré de plein d'addictions qui me rongeaient pendant mon adolescence et pendant mes premières années de jeune adulte, j'ai pu vraiment pouvoir voir que Dieu est puissant, qu'il est vivant. Et la première chose, en fait, c'est que j'ai quand même dû m'approcher de lui par déjà la prière et aussi par sa parole, parce que les promesses, si on ne les connaît pas, on ne risque pas de s'y appuyer dessus. Donc il faut vraiment pouvoir étudier, sonder les Écritures et avoir une confiance en Dieu, apprendre à lui faire confiance, c'est-à-dire à le mettre à l'épreuve aussi pour avoir confiance en lui. Donc je vais prendre par exemple un texte, si vous voulez bien, peut-être dans la Bible, qui se trouve dans Jean chapitre 14, verset 6. Donc Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc c'est un verset qui m'avait beaucoup, beaucoup impacté quand je suis devenu vraiment chrétien, puisque dans le monde entier, tout le monde cherche un sauveur. Et là, dans ce texte, Jésus dit directement qu'il est le chemin, le seul, qu'il est la vérité et qu'il est la vie, et que personne ne vient au Père, donc à Dieu, que par lui. C'est ce qui a permis à ce qu'à un moment donné, je sois aussi donc délivré de ces addictions, sans que je sois parfait aujourd'hui encore, malheureusement, mais c'est un cheminement dans lequel j'ai eu pas mal de victoires grâce à Dieu déjà jusqu'à maintenant, et c'est en m'accrochant justement à Jésus-Christ qui le dit, qu'il est la vie, le chemin, la vérité, et si c'est le cas, effectivement, il faut le mettre à l'épreuve. Donc c'est ça qui m'a permis de m'en sortir, c'est vraiment de m'accrocher à Jésus-Christ, de lui parler, de le prier, de lui demander de l'aide. Là où moi j'étais incapable d'avoir des victoires, c'est lui qui me les a données.
Voilà le secret. Merci beaucoup Alexandre pour ton témoignage, merci pour ta participation. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que tu continues dans ce chemin de sanctification.
Merci beaucoup Mildred et que Dieu bénisse toute l'équipe ainsi que les auditeurs.
Alors Nicolas, la parole est à toi.
J'ai envie de partager avec vous quelque chose sur lequel j'ai pris du temps à réfléchir et qui me parle, mais de manière vraiment très particulière. C'est la fameuse prière de Jésus qu'on appelle la prière sacerdotale. Alors on va revenir sur tout ça, mais avant toute chose, j'aimerais qu'on se mette dans le contexte. On est dans le livre de Jean et Jean nous raconte pour bonne part, qu'est-ce qui s'est passé à la fin. C'est les derniers temps de Jésus. Et puis, il y a un moment donné où ils vont vivre ce temps de Sainte-Cène, de lavement des pieds. Et puis, à la suite de ça, il y en a un qui a dû partir parce qu'il avait quelque chose à faire. C'était d'aller dénoncer Jésus. Et au moment où Judas est parti, le texte, là on est dans Jean 13, et Jésus va dire quelque chose d'assez extraordinaire. Il va dire... Voilà, maintenant tu es parti, va faire ce que tu as à faire. Et une fois, et le texte nous dit qu'une fois qu'il est sorti, Jésus va dire maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Et tout le texte de Jean 17 commence en fait à Jean 13. Tout ce que Jésus va raconter après découle de ce que Jésus dit ici. Et il va rajouter quelque chose qu'on connaît bien, nous, c'est « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Judas est parti. Le Fils de l'homme, maintenant, va être ou a été glorifié. Vous avez remarqué que c'est un passé, il a été glorifié. Et l'amour est le symbole même de tout ce qui va être dit par la suite. Et là, Jésus va raconter un certain nombre de choses, il va donner des avertissements, il va parler de ce qui va se passer. Imaginez-vous, à un moment donné, que Jésus se tait, et puis le texte dit qu'après avoir parlé, Jésus lève les yeux au ciel et parle. Moment magnifique, parce que Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire que probablement les disciples n'ont jamais vu. Ils vont assister au moment le plus intime qu'il peut y avoir entre Jésus et son Père. On sait que Jésus priait, on sait qu'il avait des moments particuliers, mais là, le fait que Jésus, devant ses disciples et devant ses plus proches amis, c'est les plus intimes. Et c'est là, Jésus lève les yeux et s'adresse à son Père. Et moi, j'aimerais, on ne va pas pouvoir le faire aujourd'hui, mais on pourrait méditer juste sur ce temps extraordinaire où moi-même, je deviens aussi un spectateur privilégié de ce que Jésus est en train de parler à son Père. Est-ce qu'on arrive, mes amis, à imaginer...
Allez, on y va.
Hein, est-ce que vous arrivez, mes amis, à imaginer que Dieu parle à Dieu?
Ça doit être très, très fort. Ça doit être incroyable.
Vous imaginez que là, à un moment donné, le Fils parle au Père et il va dévoiler toute son intimité. Et ce qui est magnifique, c'est que dans ce texte-là, Jésus parle à qui? Parce que le texte dans lequel il se situe, là je fais un petit retour en arrière, dans Jean 15, Jésus va dire quelque chose. Il va dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour qui ? Pour ses amis. » Et il va dire « Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes désormais mes amis. » Donc Jésus leur fait rentrer dans la stricte intimité. Ce sont ses amis à qui il va confier finalement cette prière particulière. Donc Jésus s'adresse à son Père, il lève les yeux et on rentre dans une intimité profonde. Et dans ce moment, on ne va pas prendre forcément le début de ce texte-là parce que finalement Jésus pose le contexte au départ. Il pose finalement quelque chose d'essentiel et c'est qu'il va remettre finalement toute cette prière entre les mains du Père. Et ce qui est magnifique, c'est que Jésus aurait pu rester, comme au début de sa prière, sur, on reste un tout petit peu sur la gloire du Fils, parce que c'est les premiers versets de Jean 17. Et pourtant, on se rend compte que finalement, si le Fils est glorifié, c'est pourquoi ? C'est pour que ses amis, les disciples, eux, le deviennent aussi dans leur ministère. C'est-à-dire que finalement, la prière de Jésus, elle est centrée non pas sur lui, ni sur Dieu, mais sur ses amis à lui. Et c'est dans ce contexte-là que finalement Jésus nous invite aussi à lever les yeux. Et puis lorsque Jésus s'adresse à son Père, vous avez remarqué qu'il ne dit pas « notre Père », il dit « Père ». C'est vraiment c'est Abba, c'est le Papa. Hein? Donc on est dans quelque chose dans lequel l'intimité et dans lequel moi-même, en tant que disciple, je peux rentrer. Parce que je peux aussi m'adresser à ce Père. Et finalement, si lui est le Fils, eh bien nous aussi, nous sommes fils et filles de ce Père-là. Donc finalement, Jésus, par une subtilité, va associer ses disciples. Alors, sacerdotal, ça c'est un mot un peu barbare. Hein. Je suis sûr que vous vous êtes posé la question, mes amis, en vous disant « mais qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ?» Alors là, on fait une référence à un texte qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est dans les Hébreux, au chapitre 7, les versets 24-26, où il est fait mention de l'intercession de Jésus. C'est-à-dire que Jésus va prier, intercéder aussi, un mot compliqué. C'est-à-dire que Jésus ne va pas prier pour lui, mais va prier pour les autres. Et il va le faire non pas simplement en tant qu'homme, mais il va le faire en tant que prêtre. Et c'est pour ça que finalement le sacerdoce, hein, c'est la posture du prêtre qui prie pour les autres. Et du coup, Jésus, non seulement il est prêtre, mais il est grand prêtre. Et c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui prie. Et si c'est lui qui prie pour nous, ça a la plus grande des valeurs. Et ça nous permet de réaliser que très probablement, et là je fais un petit clin d'œil, Jésus continue de le faire aujourd'hui encore. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse rentrer... Et je vous invite à rentrer avec moi dans cette prière et nous laisser complètement imprégner par ce qu'elle veut nous dire. Je crois que le cœur, on l'a dit, c'est les disciples, c'est ses amis. Et le texte nous donne un certain nombre de clés qu'on va pouvoir voir aujourd'hui et aussi la semaine prochaine, qui nous permet de comprendre finalement dans quelle logique Jésus va prier. Parce que sa prière, mes amis, elle n'est pas du tout aléatoire. Vous savez que nous, quand on prie parfois, on suit une forme d'instinct et puis on pense à ça, puis on pense à ça. Jésus, non, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il a une prière parfaitement construite. Il prie d'abord pour lui, pour être réinvesti dans cette gloire qu'il avait avant de devenir un homme. Ensuite, il va prier pour ses disciples. Ensuite, il va prier pour ceux qui viendront après. Et à la fin, il reprie à nouveau pour ses disciples. Donc, c'est une prière très, très structurée. Mais au cœur, c'est le mot « disciple » qui revient chaque fois. Alors, on verra que cette prière, elle fait un appel à la mission. Elle fait aussi, finalement, le cœur du message du Christ, c'est de faire de nous des envoyés. Et pour faire des envoyés, on ne fait pas n'importe comment. Hein, pour être envoyé, pour être des chrétiens et pour être des disciples, eh bien, c'est pas Jésus a dit, écoutez, moi maintenant, je m'en vais, je vous laisse tranquille et puis on revient dans...
On sait pas quand.
On sait pas quand. Hein, on aimerait
fais
bien.
Comme tu veux.
Pas
vas-y,
trop tard.
Avance.
On aimerait bien qu'il tarde pas trop. Mais en attendant, ben, il est. Lui, il s'en va. Mais il a laissé des instructions. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette prière, il donne pas des instructions aux disciples. Il demande des choses à son père. Et donc, finalement, c'est le fils qui remet au père un certain nombre de choses pour que le père, finalement, reprenne la main par rapport à ce que lui, il a fait. Alors, dans le texte, pour celles et ceux qui ont envie de lire le texte, vous verrez qu'il y a plusieurs fois, il y a des mots-clés qui ressortent. Alors ça, c'est toujours intéressant quand on fait un petit peu d'études de texte, comme ça, juste avec un petit crayon de couleur, je l'ai fait d'ailleurs dans ma Bible, c'est d'aller chercher les mots récurrents, les mots qui reviennent. Et il y a un mot récurrent qui revient souvent, c'est « donner ». Hein, si vous prenez le verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues, et ensuite un peu plus lent. Enfin, il y a plusieurs fois le mot donner, et on voit que finalement le fils redonne au père pour que le père donne quelque chose. Et finalement, c'est un système de don. Et ce don, finalement, me dit quoi? C'est que le fils redonne. C'est-à-dire, c'est une transmission. C'est que finalement, il y a de l'ordre de ce que le fils redonne ou retransmet au père. Le père va le retransmettre aux disciples. Et qu'est-ce que les disciples vont faire après? Ils vont transmettre plus loin. Donc, vous voyez que le don, finalement, donner, c'est un don. Donner, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous, c'est ce que Dieu met en nous et qui ne nous appartient pas. Et ça, on le verra l'importance que ça a quand on parlera, n'est-ce pas, du cœur, le cœur de nos vies, qui finalement, la relation, on verra que ce don, il est très, très important. Et surtout que Jésus va insister sur ce don parce qu'il connaît les enjeux énormes qu'il y a pour les disciples au moment où il va partir. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui nous interpelle quand même, parce que si Jésus insiste tellement sur le don, c'est que finalement il sait qu'en faisant ce don, il instaure l'Église. L'Église, c'est quoi? C'est la réunion de tous les dons, c'est-à-dire la réunion de tous ceux qui sont réunis en vue d'une même mission.
Et l'Église, donc Jésus, sont les personnes. Donc.
Les Églises sont les personnes, c'est-à-dire le rassemblement de celles et ceux qui sont unis par le nom pour le nom de Jésus, et comme on le verra un petit peu plus tard. Mais il est quand même important, c'est que Jésus sait quoi. Il sait qu'il va partir, il va laisser les disciples tout seuls, et donc du coup, il connaît les enjeux qui vont se passer. Parce que tant que Jésus est là, si Jésus était là, on se sentirait en protection. C'est-à-dire qu'il nous dit ce qu'on doit faire et puis on doit agir en conséquence. Là, Jésus sait qu'il va partir. Alors bien sûr, il y aura le Saint-Esprit qui va prendre le relais. Mais on voit qu'ici, l'Esprit, il est sous-jacent. C'est-à-dire qu'il est présent dans le texte, mais sans qu'il soit mentionné. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va prendre le relais. Alors, Jésus va partir, les disciples vont être séparés de leur maître, comme nous le sommes aujourd'hui, nous sommes tous séparés de ce maître. Et finalement, qu'est-ce qui va faire qu'on va rester à la fois attaché à sa parole et continuer à entrer dans la mission dans laquelle il veut qu'on rentre? Et il sait aussi que sans lui, eh bien, sans sa présence physique, on va tomber plus facilement. On va entrer dans une dynamique qui va être beaucoup plus difficile que s'il marchait à côté de nous. Alors, là, il y a deux mots vraiment qui vont jouer un rôle essentiel dans le texte. Et le premier mot, c'est celui qu'on trouve notamment au verset 11, où Jésus va dire « Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. » Alors moi, je me suis un peu arrêté sur ce mot de « garder ». Pourquoi est-ce que Jésus demande de garder? Pourquoi est-ce qu'on doit rentrer dans cette dynamique-là? Et garder, ça veut dire que il nous confie encore une fois à ce Père pour qu'il intervienne, pour qu'il prenne le relais, et notamment d'une chose, et c'est le texte qui le dit après, c'est pour les préserver du mal. Alors, préserver du mal, ça veut dire que Jésus savait que les disciples, au moment où ils allaient partir, déjà du temps de Jésus, ils savaient qu'il y avait un combat. Mais là, ils vont devoir combattre encore plus parce qu'ils vont être attaqués. Ils vont subir un certain nombre d'oppositions qui vont faire qu'ils ne pourront pas tenir tout seuls. Ils ne peuvent pas tenir tout seuls, et c'est bien pour ça que Jésus intercède. Et cette intercession va prendre une symbolique très très forte. Et c'est là-dessus finalement que se concentre la première partie du message, c'est que Jésus va dire « sanctifie-les ». Alors sanctifie-les, ça c'est aussi un mot compliqué, hein, sanctifie-les. Alors rends-les saints, c'est ça que ça veut dire. Alors est-ce qu'on est des saints avec des auréoles sur la tête? Non, ça veut dire que Jésus va demander à son Père de les mettre à part, c'est-à-dire de les préserver, de les séparer, c'est-à-dire de les mettre dans une relation de proximité avec lui. Et le fait de mettre à part, de, le fait de rendre saints, c'est pas, vous avez remarqué que c'est pas les disciples qui se rendent saints par eux-mêmes, c'est Dieu qui les rend saints. Et c'est non seulement Dieu qui les rend saints, parce que Jésus a demandé à Dieu de les sanctifier. Donc vous voyez, c'est une espèce de, une espèce d'écho comme ça, parce que s'il veut qu'il soit saint, c'est parce que lui est saint. Il est saint, il transmet cette sainteté à travers son Père à ses disciples. Et c'est grâce à cette, finalement, à cette sanctification, passez-moi le mot, c'est-à-dire au fait d'être saint, c'est le fait que je vais pouvoir comprendre la mission dans laquelle je rentre. Et le mot sanctifié, on pourrait le dire consacré. Vous savez, quand on se consacre à quelque chose, c'est-à-dire qu'on donne tout son cœur pour ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que cette sanctification que Dieu donne, elle permet... Alors même que Dieu seul est saint, c'est ça qui est intéressant, et il n'y a que Dieu qui peut la transmettre, eh bien, si cette sainteté nous est donnée, et si nous-mêmes nous arrivons à la prendre, à la recevoir en nous, eh bien, nous allons pouvoir être des transmetteurs de sainteté. Pas par notre attitude, mais parce que nous transmettons le relais. Rappelez-vous le mot donner, hein, donner, recevoir. Et là, il faut que Dieu nous préserve, nous garde, parce que le monde dans lequel on est un monde de bataille, et dans ce monde de bataille, je ne peux pas entrer dans ce monde de bataille si je n'ai pas été mis à part par le Dieu éternel. Et c'est finalement dans cette relation-là que je vais pouvoir finalement me préparer à aller dans le monde. Parce que notre objectif, ce n'est pas de rester entre nous, le but, ce n'est pas de garder cette parole pour nous, le but, c'est d'aller finalement au-delà de ça pour transmettre ce que...
Partager avec d'autres personnes.
Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va les envoyer dans le monde. Mais c'est quoi le monde ? On pourrait d'ailleurs se poser la question. Hein, on a eu un témoignage, voilà, la difficulté par rapport au combat qu'on a personnel. Ben, mes amis, c'est ça. Parce que le monde est un champ de bataille. Autour de nous, on a plein de tentations, on a plein de choses. Tout n'est pas mauvais, mais tout peut avoir une influence sur nous. Et les disciples vont être envoyés dans ce champ de bataille-là. C'est un champ miné, parce qu'à chaque moment, eh bien, il peut y avoir des pièges et dans lesquels on peut tomber. Et là, Jésus va dire, moi je suis conscient que vous allez dans un moment difficile, mais j'ai demandé au Père de vous mettre à part. Et c'est parce que je vous ai demandé au Père de vous garder contre le mal et de vous mettre à part que maintenant vous allez pouvoir être équipés pour aller dans le monde et pour pouvoir comprendre comment dans ce monde vous allez pouvoir tenir contre les batailles. Alors des batailles, il y en a plein, on pourra en parler d'ailleurs, chacun aura les siennes.
Tous les jours, comme disait Stéphane.
Tous les jours. Et c'est ces batailles-là, finalement, qui nous amènent à réaliser que finalement, de manière peut-être pas trop naïve, et de réaliser que les choses se vivent autour de nous et il y a des enjeux, mes amis, des enjeux spirituels très très forts. Mais la question, c'est de savoir où se situe finalement le vrai champ de bataille et quelle arme on a à notre disposition. Et ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine.
Merci.
Voilà de retour avec le culte espoir après cette belle pause instrumentale. Et aujourd'hui, nous recevons Nicolas Walter, le pasteur de l'Église adventiste de Genève francophone. Et il nous a apporté un message très intéressant basé sur Jean, chapitre 17, de versets 11 à 19. Alors donc, nous avons vu que Jésus a prié, il a parlé avec son Père, avec Dieu, et il a demandé que son Père sanctifie l'homme, la femme. Donc, on a bien compris, hein, sanctifier, qu'il les mette à part et que Dieu les prépare pour une guerre spirituelle. Et cette guerre, les amis, on la mène aujourd'hui ici dans ce monde. Et c'est ainsi que Christ envoie ses disciples, ses amis. Et sommes-nous aussi. Nous sommes les amis de Jésus. Et nous voilà aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire après cet exposé de Nicolas?
C'est surtout la préparation. C'est le mot préparer. C'est que Jésus demande d'aller en bataille, normal. Dès qu'on fait quelque chose, on doit se préparer. Mais c'est qui va nous préparer?
Préparer ou équiper?
C'est préparer le tout.
Les deux. Hein.
Les deux. Mais c'est préparer, vrai que... c'est quoi préparer? C'est être équipé. Quand on va peut-être dans la montagne et skier, on va se préparer, on va équiper nos affaires. Mais moi, c'est surtout, c'est le Père qui va nous préparer.
C'est
pas n'importe qui, c'est vraiment le Père. Qui est le mieux placé pour nous préparer? Qui connaît tout? Qui sait comment résoudre les problèmes?
Alors, entrons dans le vif du sujet, comment on se prépare, nous? Parce que là, on a dit que nous sommes les disciples, que nous sommes les amis de Jésus. Comment on se prépare pour combattre tous les jours?
Comment on se prépare? Il y a beaucoup de façons de se préparer. Hein.
Vas-y, donne-moi quelques façons.
J'imagine qu'il y a la parole. Moi, en tout cas, dans mon vécu, c'est vrai que la parole m'aide beaucoup. Je suis pas mal dans la lecture. Le matin, c'est la première chose que je fais. Voilà, je confie ma journée à Dieu. Je confie l'idée d'être avec lui, en fait, de vivre un moment d'intime, un peu comme il s'est révélé à travers ses disciples, ce moment de prière intime. Ce qui m'a marqué aussi dans ce que tu as dit, c'est la notion de don. Tu disais que ce qu'on recevait, c'était un don de Dieu et qui devait être partagé. Nous, souvent, quand on dit qu'on a des dons, c'est des dons, des qualités, et je pense pas qu'on a forcément cette notion-là de ça doit être repartagé. Ouais. C'est pas quelque chose que tu gardes pour
des
toi.
Des fois, on a envie de garder, justement.
Voilà, ou que c'est quelque chose...
Voilà. Et
c'est pas l'objectif. Et c'est pas à nous. Hein.
C'est et c'est
don,
pas à nous.
On est juste des locataires. On reçoit quelque chose, mais ce don, il n'a de valeur que parce qu'il est transmis.
Voilà, exactement. En fait. Donc voilà, c'est cette notion de don qui est vraiment, je trouve, interpellante. Ouais.
Et donc, Nicolas, tu disais que Jésus a demandé à Dieu de séparer les disciples, de les mettre à part, de les garder du mal.
C'est ce qui nous interpelle hein, dans ce texte-là, c'est que Jésus va centrer. Finalement, c'est comme si, et je crois que ça a été dit avant, il y a un équipement, il y a l'équipement de base. C'est le kit, hein. il y a un kit de base, et dans ce kit, il y a Jésus qui demande quelque chose à Dieu, Dieu qui va garder. Et finalement, cette notion de mise à part, mais j'aimerais bien qu'on ne se méprenne pas sur le fait de mettre à part. Mettre à part, ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas, on va créer le Jesus Club et puis finalement, on va rentrer avec une carte de membre particulière. Non, parce que finalement, on voit bien que dans la suite du texte, c'est nous tous qui sommes concernés. Si les disciples, au départ, les 11 premiers sont équipés, c'est parce qu'à leur suite, finalement, toute l'histoire de la chrétienté va s'écrire. Et je pense que c'est le fait de mettre à part, ça veut dire que c'est le fait d'entrer dans une démarche spirituelle en sachant, et ça va être tout l'enjeu du texte, c'est d'être du monde, c'est d'être dans le monde, mais pas du monde. Et donc, il y a toujours cette opposition, cet antagonisme, ce lien qui fait finalement, je suis d'ici, mais j'appartiens à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose, sans entrer dans un débat un tout petit peu paradoxal, c'est de savoir que nous croyons aussi, et Jésus, quand il parle à son Père, il va vraiment dire quelque chose, c'est qu'il dit... Il va déjà dire « je suis dans cet état de gloire ». Quand on lit le texte, mais attends, mais Jésus, il n'est pas encore glorifié quand il... Et pourtant, il va dire à son Père « tu m'as glorifié ». Et ça veut dire que Jésus est déjà dans la projection. Et il nous invite à rentrer dans cette vie future dans laquelle, finalement, on sera en gloire avec lui. Donc, c'est une expression que j'aime bien, c'est le « déjà » et le « pas encore ». On est déjà avec lui, mais pas encore totalement. Et c'est cette tension que Jésus essaie de résoudre en nous.
Et comment on peut vivre dans ce monde et ne pas faire partie de ce monde?
Pour moi, il faut déjà comprendre qu'on est déjà, on fait pas partie, parce que notre vraie maison, c'est pas ici.
Ok.
On est ici, on est vie, c'est vraiment très compliqué, mais il faut penser à plus tard, c'est être avec Dieu.
Ok.
Mais déjà, si on connaît ça, on sait déjà qu'est-ce que c'est, notre futur, c'est avec Dieu, on peut se dire ok.
Ça se passe par les pensées, il faut que les pensées soient transformées.
Les pensées, aussi les actes, parce qu'après les pensées, après notre cœur, c'est à l'intérieur qu'il faut vraiment transformer. Il faut avoir confiance en lui, peut-être en se préparant, en lisant la lecture, en partageant. Il y a la parole, mais Jésus par des talents, ceux qui a pris 5 qui a gagné 10, parce que quoi, on reçoit quelque chose de Dieu, il faut partager. Et Dieu est avec nous, parce que Jésus nous a demandé Dieu, mais on est là. Et si on comprend déjà ça, en disant, c'est pas ma maison, je vais être tranquille, s'il y a des problèmes, Dieu est là pour moi et je peux avancer mieux.
Et c'est aussi un processus, je pense. Hein? Aujourd'hui, j'ai fait des choix, j'agis de cette manière. Demain, peut-être je vais tomber, peut-être je vais commettre, vu qu'on est dans un combat, hein, des fois on gagne, des fois on perd. Et l'importance de continuer en cheminement, on marche. Tout à l'heure, quand tu as mis cette chanson, ça m'a fait penser à ça.
Et puis, Nicolas, tu parlais aussi tout à l'heure, tu l'as dit très rapidement, mais c'est que Jésus, il continue à intercéder pour nous. Et comme il l'a fait avec ses disciples, et de savoir qu'en ce moment même, bah, Jésus continue d'intercéder pour
nous. Il ne nous a pas abandonnés.
Il ne nous a pas abandonnés, c'est quand même fort.
Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce n'est pas juste une parole en l'air. Ça veut dire que finalement, il continue à intercéder, il continue à, finalement, à prier pour nous, finalement, même là où il est aujourd'hui auprès du Père. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous paraît peut-être inconcevable. Et dans l'équipement, peut-être une des propositions aussi qu'on peut faire par rapport à ce texte, c'est de savoir qu'on donne quelque chose qu'on ne mérite pas. On donne quelque chose qui ne nous appartient pas, mais dont nous sommes, nous seuls, aujourd'hui, mes amis, les seuls à pouvoir faire. Ce n'est pas Dieu qui vient faire le travail. C'est nous qui l'utilisons pour faire ça. Et vous savez, cette notion, on en parle un tout petit peu, mais partager le royaume. Aujourd'hui, le royaume de Dieu. Nous a été donné dans les mains quelque chose dont nos mains ne sont pas dignes, mais que Jésus et Dieu vont utiliser pour transmettre aux autres. Pour moi, c'est pour ça que cette prière de Jésus, elle nous mène dans une responsabilité, mais tellement bienveillante et avec tellement d'amour, mais il nous confie quand même une grosse et lourde responsabilité. Et c'est parce qu'il nous a confié ça à nous que nous, on a besoin d'être équipés. Et pas par notre propre force, ni par notre intelligence, ni par notre savoir, ni pour toutes les armes qu'on pourrait imaginer, mais bien par ce que Dieu, finalement, nous garde et nous préserve.
Ouais. Et nous pouvons toujours faire confiance, hein, n'est-ce pas? Et toi, cher auditeur, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce message?
Bienvenue à toi. Si tu viens de nous rejoindre, tu es au Culte Espoir. Nous sommes dans la chronique Dieu dans les arts. Et Stéphane, de quel art veux-tu nous parler?
Je vais vous parler du septième art,
le cinéma. J'aime bien.
Et c'est un film inspiré de faits réels. Comme je préfère mes films préférés, c'est toujours les faits réels parce que c'est réel.
Moi aussi, j'aime bien les faits réels.
C'est le film Woodlow. C'est déjà pour mettre l'ambiance, savoir où on était. Ça se passe dans les 1973, dans l'État d'Alabama.
Okay.
Et ce qui se passe vers les années 1970 dans les États du Sud des États-Unis.
La fin de la ségrégation raciale.
Période difficile.
Difficile, parce que ça passe pas du tout. C'était très difficile.
Trash.
Donc, dans cette ambiance-là, imaginez cette ambiance que vous êtes de haine, parce qu'il y avait vraiment de conflits. Donc, le lycée, le high school Woodlow à Birmingham abandonne la ségrégation raciale. Donc, vraiment conversé, c'est-à-dire que l'État, il dit, maintenant, ce collège-là, ce lycée-là, vous acceptez les...
C'est pour tout le monde, peu importe la couleur.
Donc là, il arrive plusieurs joueurs noirs, et surtout un, ce qui est vraiment surdoué, Tony Nathan, ils rejoignent l'équipe football. Et bien sûr,
c'est un peu classique quand même. Classique. Hein? L'autre noir, qui est super bon, qui est fort.
Non, mais elle arrive dans une école vraiment blanche.
Film américain.
Bien sûr. Et aussi, l'entraîneur était obligé d'accepter ça. C'est pas
ça
un choix.
Ça arrête des stéréotypes. Hein. Mais il en faut. Hein.
Mais le problème, c'est que c'est arrivé. Bien sûr, au cinéma, ils mettent bien joli, mais ça, c'est arrivé. Donc, l'entraîneur, il décide quand même d'utiliser, il profite, c'est quelqu'un de bienveillant, même qu'il n'était pas trop d'accord, mais bienveillant. Donc, il utilise, allez, vous êtes vos rages, votre haine, vous utilisez pour vraiment s'unir et se battre. Parce que football américain, il faut se battre.
Ah ouais.
C'est la bataille. Donc, il utilise vraiment ça. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Au contraire. Les joueurs commencent à affronter, mais en dehors du terrain aussi, entre eux. Donc à ce moment-là, le coach laisse un aumônier sportif itinérant qui va dans plusieurs écoles, Hank Hervin, de parler à l'équipe en tant que conférence de motivation. J'ouvre juste une petite parenthèse avec ce aumônier-là, Hank Hervin. Il a été inspiré de partager l'amour de Dieu, vraiment il partage. Parce qu'il a participé à un programme, à une des conférences du pasteur Bill Graham. C'était à l'Expo 72 à Dallas. Ouais. Et même sorti dans Time, c'est la révolution de Jésus.
D'accord.
Le jour là qu'il a vu cette conférence, il y a plus de 100 000 personnes qui voyaient. Millions de personnes ont participé à ces conférences.
Ouais, c'est les méga church là.
Méga church, mais là c'était vraiment expérience. Donc lui, il était vraiment motivé à partager à partager. Donc on revient vers le film. Ça, c'était juste un, pour comprendre. Donc le discours de Hank pousse presque toute l'équipe à accepter l'invitation de s'engager leur vie et suivre Jésus-Christ. Vraiment. Et là, et tout le monde commence à rassembler en prière. Le coach n'accepte pas trop. Déjà, il n'accepte pas l'invitation parce qu'il n'est pas touché. Mais il ne sait pas quoi faire. Il est même gêné. Voir toute l'équipe, il dit qu'est-ce qui se passe. Mais les entraînements continuent et mais l'équipe perd. Pourquoi ? Parce que le joueur, en fait, il n'intègre pas les joueurs noirs dans son équipe. Donc un jour, il décide d'intégrer Tony, Nathan, pour faire. Et bien sûr, les parents des enfants blancs ne sont pas du tout contents. Mais forcément, avec lui, l'équipe commence à gagner. Ils gagnent tous leurs matchs jusqu'au dernier, mais ils perdent. Ah. Mais le coach, ils n'ont pas gagné le championnat, mais le coach est très content parce que l'équipe, elle joue ensemble. Donc, il dit, l'année prochaine, on va y arriver. Et surtout, lors du dernier match, l'entraîneur a demandé que les gens vraiment ciblent Nathan. Ciblent le meilleur joueur pour se blesser. Oh. Il arrive à marquer, mais il est vraiment blessé. Il sort du terrain et l'équipe perd. Donc, c'est vraiment de cette bataille-là. C'était compliqué, mais le coach a dit, au moins cette année, on a survécu. On est vraiment reliés, donc on a pu avancer.
Ils étaient soudés.
Soudés. Et Mel, après, le film continue à la suivante, mais je ne vais pas vous raconter, parce que vous voir le film.
Ah, bah non, quand même.
Tu ne vas pas nous spoiler.
Non, non, là, c'est juste le début du film. Mais je peux juste vous dire qu'il y a des choses incroyables, des miracles vont se produire. Et même pour un match de lycée, de collège, vraiment match de high school, ils vont remplir un stade de plus de 40 000 personnes.
Pas mal, hein.
Donc, vous voyez, imaginez qu'est-ce qui s'est passé. Et en plus, est-ce que le coach va accepter Jésus ou non ? Je vous laisserai découvrir.
Ah, ça, on va découvrir.
Suspense, hein.
Comment l'équipe se tourne vers Dieu ? Va-t-il changer les choses dans cette ville, dans cet état ? Et plusieurs personnes s'interrogent comment l'équipe, pourquoi elle avance si bien ? Ils ne savent pas trop. Donc, il y a quelques ennuis qui arrivent. Mais je peux dire que c'est vraiment, c'est que c'est un climat de tension raciale énorme et aussi très spirituel. Bon, il y a une bataille entre faire un choix, accepter Dieu et accepter les conséquences, ou non pas accepter. Donc, c'est à ce niveau-là que ce film se passe.
Il y avait une bataille dans plusieurs dimensions.
Plusieurs dimensions. Donc, si après tout ça, vous n'avez pas encore envie de voir le film,
je vais le voir ce soir.
Tu as quand même une bande-annonce.
Oui, maintenant, je vais passer la bande-annonce.
Ok.
Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Nous devons aimer ceux qui se dressent contre nous. Si jamais vous deviez vous contenter d'aimer ceux qui vous aiment, dites-moi donc, quel genre d'amour serait-ce là ?
Tu as quelque chose de spécial, Tony. Je le vois. Tu as un vrai don. Mais c'est à toi de décider ce que tu veux en faire.
Je peux pas. Il a dit que j'irai pas à la fac d'Alabama. Ni moi, ni tous les gens comme moi. J'aimerais m'entretenir avec votre équipe. Mais j'ai vu certaines choses à travers tout le pays.
Vous n'en verrez pas ici.
J'aimerais que vous nous évitiez les meutes.
C'est pas ma faute, Owen. J'essaie d'enseigner le football.
Mais ça va au-delà du football, hein.
Mais qu'est-ce que vous diriez si je vous annonçais que c'est pas forcé que ça se passe comme ça ? Vous pouvez faire ça. Mais je vous demande quand même de vous tenir debout, maintenant, dans ces gradins, et de prendre une décision. De changer, de pardonner, d'accepter d'être pardonné. Voilà à quel point Dieu vous aime.
Qu'est-ce qui vient de se passer ?
Regarde-moi. Je suis fier de toi. Que tu gagnes ou non, tu restes mon fils. Il est écrit dans la Bible que, sans vision, le peuple périt. Alors je te dirai, va leur en apporter. Combien de joueurs noirs dans l'équipe ? J'en ai pas assez.
Pourquoi croyez-vous que ça va changer ?
Parce qu'il est grand temps. Tu sais quelle est la différence entre toi et ces imbéciles ? Eux sont des lâches. Et toi, non.
Là, dehors, personne ne sait ce qui s'est passé dans cette équipe. Mais en gagnant, ce soir, ils sauront.
Un espoir.
Celui que l'on surnomme Tony Touchdown.
Un rêve.
Nous avons dit à Birmingham.
Un chemin.
Allez, là, c'est ton moment. C'est ton heure, là. Tu y vas et tu la prends.
Le combat d'une vie.
Voilà ce qui se passe quand Dieu vient à nous.
Et ben voilà, après l'occulte espoir, on peut partir regarder ce film. On est partant. Nous avons bien compris que la vie n'est pas simple, que chaque jour, nous avons des défis, nous avons des batailles, nous sommes tentés d'une manière ou d'une autre. Nous avons notre part à réaliser pour essayer de rester debout. Mais je suis convaincue que nous pouvons aller de l'avant uniquement grâce à Jésus-Christ qui a déjà vaincu cette guerre.
Amen.
Chers auditeurs, maintenant nous allons prier. Nicolas va prier pour nous et ensemble nous allons demander à Dieu de nous sanctifier, de nous rendre purs afin d'avancer dans cette bataille.
Oui, Père éternel, tu nous as invités à rentrer dans l'intimité de cette prière entre un père et un fils. Dans cette prière divine, Seigneur, dans laquelle nous sommes remis entre tes mains. Nous qui sommes restés ici et nous qui n'avons finalement que la force que tu nous donneras pour avancer, nous voulons, Seigneur, te remettre tout cela. Parce que nous sommes gardés en toi, parce que tu nous mets à part, que nous pouvons comprendre et entrer, non pas dans notre mission, mais dans la mission que tu nous confies. Seigneur, moi j'aimerais prier pour nos auditrices et nos auditeurs, pour que ceux qui passent par des moments de difficulté, ceux qui sont dans des combats de vie, puissent savoir que Jésus est toujours là, avec chacune et chacun. Mm-hmm. Et que c'est ce don que nous avons reçu ne vient pas de nous, ne nous appartient pas, mais il est là pour être transmis, pour être donné. Et nous savons que celui qui le donne est toujours là, fidèle, parce qu'il est le plus puissant, parce qu'il est celui qui veut nous conduire dans cette bataille, parce que cette vie, elle ne nous offre pas toujours que des belles choses. Mais les choses dans lesquelles nous sommes engagés, eh bien nous savons que nous sommes toujours accompagnés. Mmh. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que tu puisses continuer à nous sanctifier, à nous bénir, à nous garder et à nous donner ce don pour que nous puissions le transmettre à celles et ceux qui en ont tellement besoin. Mmh. C'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen.
Amen. Alors, nous n'allons pas nous quitter comme ça sans mettre tout cela en pratique. Alors, Mildred, quelle est l'action de la semaine que tu nous proposes ?
L'heure du bilan est arrivée.
Yes.
Vous avez peur ?
Non, ça va. Non.
J'attends la suite.
Ah bah quand même. Non, effectivement, ça ne vaut pas la peine d'avoir peur. Ici, au Culte Espoir, nous avons déjà dit quelques fois, nous avons déjà proposé quelques fois de faire des bilans. Mais parce que la vie est comme ça. Il est important de faire le point et essayer de découvrir ce qui ne va pas dans ta vie. Cette semaine, cher auditeur, fais un bilan avec Jésus. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux sur ta condition, sur tes combats spirituels que tu ne vois peut-être pas, ou peut-être tu les vois très bien. Et qu'est-ce que ça pourrait être, nos combats spirituels?
Ça pourrait être une addiction à un jeu vidéo, par exemple.
Une dépendance à la pornographie, trop accro aux séries télé.
C'est vrai, il y a des séries un peu bizarre, qui finalement n'apporte rien de positif.
Ou dépendant du regard des autres.
Mmh. Et puis, même les musiques qui ne sont pas parfois compatibles avec une vie chrétienne.
Ouais, ça peut aussi être le fait d'être trop critique ou hypocrite. Toutes les dimensions de nos vies sont liées, corps et âme. Ces éléments ne peuvent pas être dissociés. Sois sincère avec Dieu cette semaine et demande-lui de t'aider à cibler ce qui doit être corrigé dans ta vie. Que ton cœur ne soit pas partagé. Donne plus de place à Dieu et sois tout entier à lui. Et voilà mon action.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va mettre tout ça en pratique. Hein,
oui.
Il y aura du boulot.
Il y aura bon du boulot. Ouais.
Alors, auditrices, auditeurs, nous arrivons déjà à la fin de ce culte. Merci, Mildred et Stéphane, pour vos partages. Merci, Nicolas, d'avoir accepté de venir. Et nous
merci de l'invitation.
Avec plaisir. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de notre série, du coup. Hein. Et quel angle vas-tu aborder pour la semaine prochaine?
Ah, je vais toucher au cœur.
Ah, touché au cœur. J'aime bien ce thème. Alors merci. Pour ma part, j'ai hâte. En attendant, je te souhaite une belle semaine.
Merci à vous.
Belle semaine à vous deux et belle semaine à toi, auditeur, auditrice. Sois abondamment béni et on se retrouve très vite. Ciao.
À bientôt.
C'était le Culte Espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.